Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
Alors, la guerre en Ukraine, il n'y a plus d'avancée sur le terrain pour la Russie, mais on continue à avoir des frappes et depuis quelques semaines, l'objectif des frappes est très, très clair, très, très précis, très facile à comprendre. C'est d'atteindre des infrastructures stratégiques et stratégiques dans le cadre, facile à comprendre pour nous les Québécois, des stratégiques à la veille de l'hiver pour un pays nordique, donc tout ce qui est production d'énergie, etc. Donc, par exemple, dans la région de Kiev, là, on a de l'électricité présentement, quelques heures par jour, on donne aux gens, parce qu'on partage l'électricité, on n'a plus ce qu'il faut. Dans certains cas, on est complètement à la noirceur. Vous avez peut-être vu ces images même de médecins qui pratiquaient une chirurgie avec des lampes frontales, avec des batteries, etc., parce qu'il n'y avait plus d'électricité dans leur hôpital à ce moment-là. Puis il y avait une chirurgie urgente à faire. Là, c'est juste pour donner un exemple. Dominique Harel est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Professeur Harel, bonjour.
Bonjour.
Bon, qu'est-ce que vise la Russie? Là? C'est assez clair? C'est le rendre l'hiver impossible?
C'est toujours vrai. C'est toujours chercher à briser la résistance et résilience ukrainienne, qui est évidemment ne fonctionnera pas, parce qu'en dépit de toutes les souffrances, les Ukrainiens ne vont pas plier. Ça, c'est assez clair. Donc, si on se demande est-ce qu'il y a une possibilité de négociation, mais ça, c'est la réponse. C'est la réponse de la Russie. Oui, on veut négocier en autant que vous venez à genoux. Je l'ai, mais ça n'arrivera pas. Alors, c'est évidemment, c'est très inquiétant ce qui se passe, là, parce que les bombardements répétés endommagent de plus en plus le système énergétique ukrainien.
Ouais, et l'hiver risque d'être dur pour vrai, là.
Pour vrai, oui, pour vrai. Ouais.
L'hiver ukrainien par rapport au nôtre, c'est semblable, un peu moins froid. Comment on comparerait l'hiver ukrainien avec l'hiver québécois?
Vous savez, vous regardez le nombre de joueurs de hockey qui viennent de Russie dans la Ligue nationale, puis ceux qui viennent d'Ukraine, vous avez un petit peu la réponse. L'Ukraine n'est pas un pays nordique au sens Scandinavie et Moscou et Russie, là. On ne parlera pas de la Sibérie, là, mais simplement la Russie européenne. Mais ceci dit, les températures peuvent tomber. Ils ne vont pas tomber jusqu'à moins 30, là, mais il fait froid. Il fait froid, il y a de la neige. Vous savez d'ailleurs, les grandes. Cette guerre-là, là, à l'origine depuis 2014, là, Maïdan, l'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass, mais les fameuses manifs du Donbass avaient eu lieu en plein hiver, là, où les gens squattaient là, avec des tentes là, sur le square principal. Dans des conditions de zéro ou moins 5, puis voilà. Donc, un peu moins froid, mais tout de même, quand vous n'avez pas de chauffage, puis que vous êtes au-dessous du seuil de congélation, là, c'est vraiment pas évident.
Ouais. L'idée de négociation, parce qu'elle circule, elle revient, et là, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui veut plus rien savoir de toute espèce de négociation, même que je voyais le président Zelensky qui disait essentiellement, ils sont comme rendus ailleurs, là. On dit, on mettra pas fin à la guerre tant qu'on n'aura pas récupéré la Crimée. Donc, l'Ukraine n'est même plus à l'étape de sortir les Russes pour revenir au statu quo, là, de février dernier. Ils sont à l'étape de corriger une situation, de 2014, ils se disent là, les Russes ayant fait l'erreur de nous déclarer la guerre, ben nous, on va en profiter pour régler un problème qui a été causé en 2014. On va pas juste les sortir pour leur incursion de 2022, mais on va aussi réparer ce qu'ils ont fait en 2014. Est-ce que l'Ukraine est réaliste dans sa détermination ou sa volonté? C'est du courage, mais est-ce que c'est réaliste?
Ouais, c'est une grande question. Qu'est-ce qui est réaliste? On pensait pas que c'était réaliste que les Ukrainiens puissent même survivre, là, résister à l'invasion tout azimut de la Russie en février 2022, là, il y a 9 mois, là,
ouais.
Cette invasion-là sur tous les fronts. La réalité, là, c'est que les fameux bombardements, depuis le début de la guerre, et là, maintenant les bombardements des d'infrastructures énergétiques et tout. En grande partie, ça vient du sud, ça vient de la Crimée, ça vient de la flotte, là, les missiles par-delà. La Russie utilise la Crimée pour attaquer l'Ukraine. Dans ces conditions-là, c'est difficile pour Zelensky ou les Ukrainiens de dire, on est tout à fait ouvert à une négociation où on laisserait la Crimée, la Russie contrôler la Crimée. Donc, d'un point de vue politique, ça se comprend que le nœud du problème, c'est la présence russe sur un territoire qui était ukrainien qui leur permet
Il attaque l'Ukraine à partir d'un territoire qui était ukrainien jusqu'à il y a 8 ans, là.
Voilà. Ouais. Voilà. Ben, il attaque aussi, au début, les attaques se faisaient aussi à l'est, parce que là, il y a des territoires qui ont été perdus, là, depuis 8 ans, dans le Donbass. Mais ce front-là est, vous l'avez dit, la Russie est plus capable de faire des offensives. La Russie est sur la défensive, a perdu terrain à l'est. Là, vient en perdre dans le sud, là. Faut pas oublier que Kherson est tombé, la Russie s'est retirée de Kherson, ça fait à peu près 2 semaines.
Mais la Russie s'est retirée
de Kherson, puis ils se mettent à bombarder Kherson.
C'est exactement ce que j'allais dire. Là. Ce matin, le maire de Kherson a fait évacuer l'hôpital, etc., parce qu'il y avait des bombardements autour de l'hôpital. Là, il y a eu des morts. J'ai pas vu le dernier bilan, mais il y avait des morts, des blessés. Donc, on a été obligé de quitter une ville parce qu'on n'était plus capable de la défendre sur le terrain, mais maintenant, on bombarde la même ville, là.
Voilà. Avec, évidemment, aucune stratégie militaire, parce que c'est pas comme la Russie va avoir la capacité de reprendre la ville, de retraverser le fameux fleuve Dnipro, là.
C'est faire du dommage pour faire du dommage.
C'est pour terroriser la population civile. C'est ça, la stratégie. Donc, on bombarde les villes comme ils ont bombardé la ville voisine, là, de la région voisine, là, Mykolaïv, qui est bombardée qui était bombardé depuis 9 mois. Là, c'est plus difficile parce que depuis qu'ils sont tirés de Kherson, ils sont un peu trop loin là, pour les bombardements massifs. Mais ils ont bombardé Kharkiv, là, vraiment Mariupol. On s'en souvient, la destruction presque entière de la ville. Donc ça, vous avez votre réponse à la négociation. Est-ce que la Russie serait prête à négocier? Mais la Russie attaque les civils continuellement, cherche à détruire les infrastructures. Dans quel but? Ben, justement, dans le but de se donner une position de force dans les négociations. Alors, évidemment, c'est une feinte de non-recevoir du côté ukrainien, puisqu'on s'attaque à la population civile. Pendant ce temps-là, l'Ukraine gagne du terrain militairement. Faut pas oublier ça.
Est-ce qu'ils en gagnent encore? Parce qu'on disait qu'avec l'hiver, c'est plus difficile d'avancer. Est-ce que l'Ukraine continue à gagner du terrain? Évidemment, des villes aussi symboliques que Kherson, là, ils en gagneront pas tous les jours, mais est-ce qu'ils continuent à gagner vraiment du terrain, à avancer?
Ben, c'est-à-dire que, évidemment, Kherson, ça fait vraiment du jour, là.
Ouais.
Ce qui est clair, c'est que l'Ukraine est dans la position de choisir quelle sera la prochaine offensive. C'est pas la Russie qui choisit. Donc, l'initiative, depuis 3 ou 4 mois, vient toujours du côté ukrainien. La Russie cherche à protéger un immense front, là, à des milliers de kilomètres, en partant, là, du nord du Donbass, là, jusqu'à finalement, la partie sud de Kherson, là, qui contrôle de l'autre côté du fleuve Dnipro, là, le long de la mer, en fait. Et puis, l'avantage militaire reste du côté ukrainien. Quelle va être la prochaine offensive, on ne sait pas. Est-ce que ça va pouvoir se produire en hiver? Écoutez, depuis le début, ce qui semble improbable ou impossible se produit. Alors, faut pas penser que les Ukrainiens vont s'arrêter pendant 3 mois. Ils vont probablement continuer, justement, leurs avancées territoriales.
Au cours des dernières heures, on a vu une espèce de mise en scène, ou en tout cas Poutine, avec des mères de soldats qui leur garantissaient, mais avec des mères de soldats éplorés et des mères de soldats, de soldats décédés, là, des mères de soldats éplorés du côté russe, qui leur disaient, bon, la Russie va atteindre ses objectifs, etc. Qu'est-ce qu'il fait, Poutine? Il en est où à l'heure actuelle? Il gère comment son opinion publique?
C'est sûr que la mobilisation soi-disant partielle, là, qui était en fait totalement arbitraire, là, a ébranlé un peu la société russe qui vivait dans une espèce de déni et de distance par rapport à ce qui se passait en Ukraine jusqu'au mois de septembre. Là, ça commence à, Donc là, ça commence à faire plus mal. Là, ça commence à se rapprocher finalement du quotidien. Puis évidemment, il y a de plus en plus de soldats qui partent au front. Et puis les pertes sont immenses, même si la Russie les nie. Ça pourrait aller jusqu'à 100 000 si on compte les blessés. Là, c'est assez catastrophique. Évidence, Poutine sentait une nécessité de faire un spectacle parce que. Vraiment, la politique, c'est toujours, vous le savez beaucoup mieux que moi, là.
Non, c'est toujours de la mise en scène un peu.
Mais... Oui, mais il y a une certaine, il peut y avoir une mise en scène dans une certaine authenticité, alors que dans le cas de Poutine, c'est arrivé aujourd'hui, les maires, bon, c'est des vraies maires, là, semble-t-il. Mais il y a une association de maires de soldats russes qui existe depuis des décennies, en fait, depuis les guerres de Tchétchénie dans les années 90. Cette association-là n'a pas été invitée. Parce que ça, c'est réel. Ça, c'est réel, plutôt que faire une mise en scène comme ça pour donner l'impression que Poutine est troublé par les décès et tout.
Ouais.
Poutine, c'est un président qui, en fait, n'a pas de contact direct avec le peuple. Il en a plus très, très longtemps. En fait, il sort à peu près jamais de son Kremlin.
Ouais.
Ça, c'est la réalité.
Mais est-ce que c'est un président qui... Parce qu'à un point, on avait l'impression qu'il était peut-être plus si en selle que ça. Là, bon, ma foi, ça a l'air... On n'entend plus parler de rien. Il a l'air d'avoir repris le contrôle, en tout cas, moyennement, sur son pays. Pour vous, est-ce qu'il est bien en selle à ce moment-ci, Poutine?
Vous savez, dans les régimes autoritaires, puis là, on a un régime autoritaire ultra-répressif et ultra-centralisé, où Poutine essentiellement prend les décisions à peu près tout seul, là, parce qu'il contrôle personnellement tous les leviers de répression, là, de police en Russie. C'est extrêmement difficile d'essayer de décoder ce qui se passe derrière le rideau, si on peut dire. Donc, un régime peut sembler très, très, très solide, très résilient, jusqu'au moment où ça commence à s'effondrer.
Ouais.
Je suis pas en train de vous dire que ça peut arriver là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais ça pourrait. Vous savez ce qui est arrivé avec l'Union soviétique, c'est un autre contexte. Là. C'était pas de, il n'y avait pas de guerre comme maintenant, mais éventuellement, le fameux régime soviétique qui était là pour l'éternité s'est effondré.
C'est
effondré. D'ailleurs, Poutine n'en est pas revenu encore. C'est un peu le fameux backlash de l'effondrement de l'Union soviétique.
On a l'impression qui
nous apparaît irrationnel maintenant.
On a l'impression que c'est ça qu'il essaie de reconstruire dans ses rêves. Dominique Arel, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.